de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Que conseillait-on d'offrir aux enfants pour Noël sur les ondes de la radiodiffusion française en 1959 ? Des livres-disques, pardi. Autrement dit, des histoires pour enfants lues par des comédiens et gravées alors sur vinyle 33 ou 45 tours. Ce fut en tout cas le conseil d'André Fontaine dans son émission « Les enfants ont des yeux et des oreilles » diffusée le 1er décembre de cette année-là. Mais alors, quel disque ? Eh bien par exemple, l'histoire de Babar et le Père Noël, lue par François Perrier, avec Jean de Sailly dans le rôle du roi pachyderme, dont André Fontaine faisait entendre un savoureux extrait. Il proposait également ce jour-là un entretien avec Paul Fauché, le fondateur des très fameux albums du Père Castor, qui livrait sa conception des albums pour enfants. Une émission qui se concluait sur cette citation de Rabelais à méditer « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume ».
Les enfants ont des yeux et des oreilles. Une émission d'André Fontaine consacrée aux cadeaux de fin d'année, les livres-disques.
Marchent à reculons pour voir la lune qui les suit. Flont un cheval d'un vieux bâton, une maison d'un parapluie. C'est la fée Carabosse qui leur donne ce pouvoir. Ils préfèrent un caillou que la mer a poli au plus cher des bijoux de nos belles amies. Ils suivent les naufrages des bateaux en papier et sont de petits pages dans la maison des fées. Père Noël entraîne au leur en visite du fond des cieux et leur fait des cadeaux rien que pour voir briller leurs yeux. Les enfants marchent à reculons pour voir la lune qui les suit. Font un cheval d'un vieux bâton, une maison d'un parapluie. C'est la fée Carabosse qui leur donne ce pouvoir. Ils préviennent Guignol lorsqu'il est en danger. Il rêve de l'école où va le petit Poucet.
Il questionne surtout car tout leur est nouveau. L'espoir, les boîtes à clous et les petits oiseaux. Il relève la tête pour regarder sous le nez des gens. Des braves gens qui s'embêtent, on est crétin quand on est grand.
Les enfants marchent à reculons pour voir la lune qui les suit.
Flont un cheval d'un vieux bâton, une maison d'un parapluie. C'est la fée Carabosse qui leur donne ce pouvoir.
C'est en pensant à l'univers des enfants jeunes, pas encore trop marqués par la vie, que j'ai préparé cette émission. Mais elle s'adresse aux parents qui, à l'approche des fêtes, ont à choisir parmi toutes les possibilités actuelles. Pour moi, il s'agit de présenter un certain nombre de livres-disques, des disques surtout, mais en conséquence, quelques livres aussi. Je donnerai en fin d'émission les références de tous les disques utilisés. La profusion des ouvrages a quelque chose d'inquiétant. Je souhaite pouvoir vous aider à ne pas commettre des erreurs toujours graves lorsqu'il s'agit des enfants. L'électrophone et le disque sont, comme tous les jouets, la meilleure ou la pire des choses selon l'emploi qu'on en fait. Le commerce phonographique a tout naturellement puisé dans le domaine merveilleux des contes et dans les légendes si difficiles à utiliser sans dommage. L'univers des enfants, que l'adulte s'empresse de peupler de personnages qu'il croit bénéfiques, se distance sous la poussée d'influences diverses. Le Père Noël maintient son prestige, bien que son champ d'action soit sillonné par les Spoutniks et qu'un grand magasin de Paris le représente en robot gigantesque. La poésie seule pouvait le replacer dans son orbite véritable, qui est celle de la fiction. Jean de Brunhoff a réussi avec Babar et le Père Noël. Il a trouvé une sorte d'humour auquel les enfants d'aujourd'hui sont sensibles très tôt.
Depuis plusieurs jours, Babar est intrigué. Il a remarqué que Pomme, Flore, Alexandre, Arthur et le petit singe Zéphyr semblaient inquiets et passaient leur temps à guetter le facteur. Les voyant une fois de plus revenir de la poste avec une mine toute triste, il les appelle et leur demande
« Allons les enfants, qu'est-ce qu'il y a ?»
Et Zéphyr lui explique
« Nous voulions que le Père Noël vienne au pays des éléphants. On lui a demandé poliment, mais nous sommes toujours sans nouvelles.
Mais nous sommes toujours sans nouvelles !»
Babar console les enfants en leur disant que le Père Noël n'a pas dû avoir le temps de répondre. Resté seul, il sort sa pipe et la fume en réfléchissant.
Comment n'avais-je pas plutôt demandé au Père Noël de descendre chez les éléphants? Le mieux serait de partir tout de suite à sa recherche. Si je lui parle, il ne refusera pas de venir.
Sa décision prise, Babar se dépêche de prévenir Céleste qui l'aide à faire ses bagages. Elle a bien envie de l'accompagner.
Je prends Milou d'Europe et hop, nous nous envolons vers l'Europe.
J'en serais ravi, ma chérie, mais qui gouvernerait ici? Je te confie mes éléphants et serai peu de temps absent. Allons, au revoir, ma chérie.
Ne prends pas froid.
Non, non, non.
Et sois bien raisonnable.
Oh, toi aussi, hein. À bientôt.
À bientôt.
Après un bon voyage, Babar, qui n'a pas emporté sa couronne pour qu'on ne le reconnaisse pas, arrive en Europe. Il se fait conduire dans un vieux petit hôtel propre et tranquille. On lui donne une chambre qui lui plaît. Il se déshabille et se lave. En s'essuyant, il se demande tout à coup :
mais qu'est-ce donc qui fait ce petit bruit ?
Et soudain, il aperçoit trois jeunes souris. La moins timide lui dit
« Bonjour, mon gros monsieur. Aurons-nous le plaisir de vous voir longtemps ici ?»«
Je suis seulement de passage. Je cherche le Père Noël. »«
Le Père Noël ? Mais il est ici.
Non.
Nous le connaissons. Venez, allons chez lui. »«
Quelle chance extraordinaire ! Mais je passe une robe de chambre et je vous suis. »
Et voilà les trois souris qui font grimper Babar tout en haut de la maison au grenier et qui se hâtent de décrocher un tout petit Père Noël en carton en disant
« Le voilà ! Le voilà ! Regardez, le voilà ! »
Oh, mais nous nous sommes mal expliqués. Mais c'est le vrai Père Noël, le Père Noël vivant que je veux voir et pas une poupée.
Enfin, Babar trouve par hasard le Père Noël sous une épaisse couche de neige.
Quelques instants plus tard, Babar, en pyjama bleu et blanc, dîne avec le Père Noël qu'il remercie de tout son cœur. Puis il lui dit
« Vous vous demandez certainement pourquoi je vous ai cherché tant. C'est qu'au pays des éléphants, il y a aussi des enfants qui voudraient qu'une fois par an, vous veniez chez eux maintenant. »
Mais le Père Noël répond
« Je suis infiniment touché de cette gentille pensée, mais je ne pourrai accepter, car j'ai du mal à assurer mon mon service de jouet régulier. Je me sens tellement fatigué, si vous saviez, si vous saviez.
Oh, le Père Noël, il faut vous soigner, prendre l'air, quitter vos souterrains. Oh. Mais venez au pays des éléphants, vous chauffer au soleil. Vous serez guéri pour Noël.
Pour Noël, j'avoue que je suis tenté.
Ah.
Oui, mais pourrais-je compter sur mes petits nains pour bien veiller à tout en mon absence?
Mais oui,
eh bien, c'est décidé, Babar, je pars avec vous. Allez, qu'on attelle les oiseaux sur ma machine volante.
Tout de suite, Père Noël.
Et c'est le départ. Quand Babar atterrit à Célesteville avec Duck et le Père Noël, les éléphants accourent de tous côtés pour leur souhaiter la bienvenue.
Je suis heureux de vous voir, mes enfants.
Maintenant, le Père Noël fait souvent des promenades à zèbre. Babar l'accompagne sur sa bicyclette. Mais il se repose aussi deux bonnes heures au soleil, dans un hamac, comme le docteur Capoulos le lui a recommandé. Quelquefois, Pomme, Flore et Alexandre viennent le regarder dormir, mais ils ne font pas de bruit. Les jours passent et le Père Noël dit à Babar:
mon cher ami, merci pour tout ce que vous avez fait.
Oh.
Noël approche. Il faut que je parte distribuer aux enfants des hommes les jouets attendus. Mais je n'oublie pas ma promesse aux petits éléphants. Et je vais vous donner un vrai costume de Père Noël.
Non.
Un costume magique qui vous permettra de voler dans les airs.
Oh.
Et puis aussi une hotte toujours pleine de jouets. Ainsi, vous me remplacerez la nuit de Noël. De mon côté, quand j'aurai fini mon travail, je vous apporterai un bel arbre illuminé.
Oh, merci, Père Noël, merci. Et à bientôt.
Les adaptateurs ont su trouver des illustrations sonores qui correspondent avec ce genre d'histoire. Vous avez reconnu les voix de François Perrier, de Jean de Sailly, de Larquet. Et vous reconnaîtrez cet autre, j'en suis sûr.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier.
Il s'agit d'un autre disque, bien entendu, mais il fait partie des éternelles rééditions. Tino chante Noël cette fois encore. D'autres chanteurs de charme viennent à la chanson dite pour enfants, Salvador, Clavo, etc. Si les princes épousent souvent les bergères, il arrive aussi que les princesses aient quelques difficultés à trouver un mari. Nous entrons là dans le monde intérieur des enfants plus âgés. La princesse trop fière est l'adaptation d'un conte folklorique espagnol, dialogué par Muse d'Albret, qui a obtenu l'année dernière le prix du disque pour ses contes du monde entier. Voici quelques extraits de cette longue histoire de la mégère apprivoisée pour fillettes de 13 ans.
Allons, allons, servantes et valets,
pressons-nous, c'est l'heure. La princesse Soledad a des observations à vous faire.
Comme toujours.
Silence, on ne réplique pas à son Altesse.
Nous le savons, seigneur majordome, mais tout de même, trop, c'est trop.
On a son amour propre.
Son point d'honneur.
Quoi que l'on fasse, ce n'est pas bien.
Allons, allons, servantes et valets, la princesse ne vaut-elle point toutes les soumissions?
On ne dit pas non.
N'est-elle point belle?
Comme un soleil de mai.
N'est-ce point plaisir de lui complaire?
Si fait, et nous y mettons notre cœur.
Mais alors de quoi vous plaignez-vous?
Elle est trop exigeante.
On a beau s'échiner, ça pêche toujours par quelque endroit.
Et cela prouve que la princesse a de bons yeux.
Oh, pour ça, oui.
Elle tombe toujours sur le petit quelque chose qui cloche.
Ainsi, les prétendants à sa main.
Ah, servantes et valets, ceci dépend de votre compétence.
Ah, la princesse est fille unique, il faudra bien qu'elle se marie.
Quand ce ne serait que pour donner un héritier au royaume.
En est-il venu des princes, des ducs, des marquis, des vicomtes et des fils de barons?
Ils sont tous repartis. chacun avec son compliment.
Servantes et valets, rappelez-vous ceci d'ordre du roi. Ce que voit la princesse est bien vu, ce que dit la princesse est bien dit, ce que pense la princesse est bien pensé.
Amen.
Ah, et maintenant, servantes et valets, allons recevoir nos compliments.
Majordome, j'ai manifesté le désir de voir mes gens à la 10e heure.
Oui, votre Altesse.
Il est 10h01min14s.
Oh, votre Altesse, comment peut-on voir les secondes sur un cadran solaire?
Silence! On ne réplique pas à mon Altesse.
Plaise à votre Altesse, m'excuser.
Je vous excuse, majordome, mais je remarque. Paquita, tu as fait la lessive hier?
Oui, votre Altesse. 21 paires de draps.
L'un des draps est taché.
Oh!
La tache est petite, à vrai dire. Quelques brins d'herbe sur le pré aura pleuré son suc, mais enfin, c'est une tache.
Moi qui ai si bien frotté, bouilli, rincé, séché, 21 paires de draps, pensez.
Silence, on ne réplique pas à son Altesse.
Je t'excuse, Paquita, mais je remarque.
Au suivant.
Antonio, j'ai vu ce matin une chenille ramper sur l'une de mes roses.
Oh, du petit jour à la nuit tombée, je ne quitte point vos roses. Il y en a 3000, savez-vous.
Silence, on ne réplique pas à son Altesse.
Je t'excuse, Antonio, mais je remarque.
Au suivant.
Teresa, dans la holla que tu nous as servie hier, combien y avait-il de sortes de viande?
Il y avait du mouton, de l'agneau, du bœuf, de la poule et du cochon.
Soit 5 sortes de viande. La holla véritable doit en comprendre 6.
Il n'y avait plus de veau dans le charnier.
Silence, on ne réplique pas à son Altesse.
Je t'excuse, Teresa. Mais je remarque...
Suivant.
Gomez, à la cave entre le 8e et le 9e baril de la rangée de droite, j'ai découvert une toile d'araignée.
Silence, on ne réplique pas à son Altesse.
Je t'excuse, Gomez, mais je remarque...
Suivant.
Conception, le cuir bleu de mon soulier gauche ne brille pas autant que celui de mon soulier droit.
Silence, on ne réplique pas à son Altesse.
Je t'excuse, mais...
Suivant. On ne réplique pas à son Altesse. Silence.
Suivant.
Réplique pas.
Je remarque.
Silence.
Suivant.
Réplique pas.
Je remarque.
Silence.
Suivant.
Réplique pas.
Je remarque.
Silence.
Suivant.
Réplique pas.
Le roi demande à sa fille un héritier, mais la princesse, trop fière, trouve tous les partis que son père lui propose inintéressants. Le roi, furieux, décide de marier sa fille au premier mendiant venu. La princesse Soledad prête serment de fidélité, mais elle doit subir toutes les épreuves de la pauvreté avec son mari, un barbanègre, borgne, mais gentil.
Ma petite femme.
Monsieur?
Non, je ne suis point monsieur. Appelez-moi Federigo.
Je ne pourrai jamais.
Alors dites Barbanègre, ou n'a qu'un œil.
Je vous connais à peine.
En attendant de nous mieux connaître, dites-moi, mon mari.
Mon mari?
Ne le suis-je point?
Ah, si.
Eh bien, dites.
J'essaierai, monsieur. Monsieur mon mari.
À la bonne heure.
Monsieur, monsieur mon mari, est-ce encore loin où vous m'emmenez?
Nous arrivons, ma femme. Mais je vois bien que vous n'avez pas l'habitude d'aller par ces chemins. Vos fins souliers seront bientôt usés. Il vous faudra marcher pieds nus.
Marcher pieds nus? Mais je ne sais pas.
Vous apprendrez, ma femme.
Bien, monsieur. Monsieur mon mari.
Voici notre palais, ma femme.
Ce tas de pierrailles?
Le château des pierres branlantes. Nous avons un toit, ma femme. Les jours d'orage, évidemment, la pluie passe au travers. Enfin, cela vaut tout de même mieux que de loger à la belle étoile. Entrez, ma femme. Vous êtes chez vous.
Oh, comme il y fait sombre.
Nous laissons la porte ouverte.
Mais s'il vente...
Nous la fermerons.
Mais nous n'y verrons guère.
Nous ferons du feu.
Mais si la cheminée fume...
Eh bien, nous rouvrirons la porte.
Bien, monsieur, mon mari. Toile d'araignée.
Vous les enlèverez, ma femme?
Moi?
N'est-ce point le rôle d'une épouse, de tenir la maison propre?
Si.
Vous ne paraissez pas à votre aise, ma femme. Peut-être avez-vous faim.
Oh oui, je n'ai rien mangé depuis ce matin.
Eh bien, trempez la soupe.
La soupe?
Voici le pain.
Il est gris.
C'est sa couleur.
Il est dur.
Il s'attendrira dans le bouillon.
Et le bouillon?
Vous aurez à le cuire.
Le cuire?
Mais tout d'abord à préparer le feu. Vous trouverez le bois mort dans la forêt. Et voici la marmite.
Elle est toute noire, noire de fumée.
Il n'y a point de feu sans fumée. Et puis vous pèlerez quelques raves. Et même, en signe de réjouissance, ce n'est pas tous les jours qu'on se marie. Et même vous ajouterez une poignée de pois chiches et quelques fèves noires. Quel festin.
Monsieur, mon mari, les émotions de cette journée, la longue marche que nous avons faite, je pense qu'un peu de diète me serait excellent.
À votre gré, ma femme. J'ai d'hier un petit reste de pepitoria pour une fois. Je m'en contenterai.
Mais j'ai bien soif.
Voici la jarre, ma femme.
Elle est vide.
Vous trouverez la source à 200 mètres, tout droit.
Ah oui?
Oui.
C'est que le soir tombe.
Oui.
Il fait noir.
Forcément, la nuit.
Si vous le permettez, je m'arrangerai de cette orange.
Je vous le permets, ma femme.
Vous comprenez, je suis si fatiguée.
Vous n'en poserez que mieux quand vous aurez fait votre lit.
Mon lit?
Tralos Montes, les Français ont un dicton. Comme on fait son lit, on se couche. La fougère abonde aux alentours, il vous suffira de la couper. Rien n'est plus sain pour y dormir.
La fougère?
Vous pleurez, ma femme?
Non, monsieur. Mon honneur me l'interdit.
C'est parfait. Eh bien, ce soir, vous ferez votre lit de ces vieux sacs. Demain, il fera jour. Bonne nuit, ma femme.
Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, mon mari.
Après des travaux bassement matériels et des émotions nouvelles, la princesse doit, à la demande de son mari, aller travailler au château du prince Frédérigo, qui va se marier. De la cuisine, elle participe aux préparatifs de la fête.
C'est la Soledad, derrière cette tapisserie.
Je ne veux pas, Enriquita, c'est indiscret.
Si, si, par l'entrebâillement, regardez.
Allons-nous-en.
Pas avant d'avoir vu. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un dans la salle.
Mon Dieu, c'est Barbanet. Oh, mon mari! Au secours, mon mari! Emmenez-moi!
Mais que faites-vous, Séan, ma femme?
Je m'en allais, je vous attendais. Oh, le prince arrive. Vous m'aviez promis, mais vous-même, que faites-vous dans cette salle?
Ma foi, je regarde. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'assister à de tels préparatifs. Ça nous change de notre cabane, n'est-ce pas, ma femme?
Oh, si quelqu'un survenait.
Oh, ces jours de fête.
Je vous en prie, mon mari, allons-nous-en.
Cette musique, ça ne vous incite pas à danser, ma femme?
Si, si.
Allons, donnez-moi votre main. Nous allons danser tous les deux.
Mais vous perdez le sens.
Non pas, je suis gaine.
Oh, mon Dieu, mon Dieu.
Vous ne voulez pas danser? Bon, eh bien, nous allons jouer. Tenez, nous allons jouer à la barbichette. Je vous tiens le menton, vous me tenez la barbe.
Oh, ciel! Mon mari est devenu fou!
En ce cas, vous savez qu'il ne faut pas contrarier les fous. Allons, tenez ma barbe, là. Et maintenant, je te tiens, tu me tiens. Allons, allons, répétez. Je te tiens.
Je te tiens.
Tu me tiens.
Tu me tiens.
Par la barbichette.
La barbichette.
Le premier. De nous deux. Qui rira.
Oh, je n'ai pas le cœur à rire.
Eh ben alors, tirez la barbe.
Plaît-il?
Tirez. Mais tirez donc.
C'est une fausse barbe.
Tirez l'emplâtre que j'ai sur l'œil.
Oh, c'est un faux œil.
Et tirez aussi la perruque.
C'est une fausse perruque.
Ah non, c'est une vraie.
Oh, Federigo, le prince.
Oui, Soledad, le prince.
Oh.
Eh là, 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 bah, vous n'allez pas vous trouver mal, ma femme.
Oh, votre femme.
Et pour la vie.
Eh bien, ma fille, comment vous portez-vous?
Ah, mon père.
Que dites-vous de notre petite comédie?
Vous m'avez joué, mon père. Vous aussi, cher Federigo, mais je ne saurais vous en vouloir. Grâce à vous, j'ai beaucoup appris.
Vous en aviez besoin, ma fille.
Non, c'est vrai, mon père. Je savais juger des choses faites, mais je ne savais pas comment se font les choses.
Et maintenant, vous savez.
Oh oui. Et combien tout est difficile.
Il n'y a rien de tel, voyez-vous, que de mettre la main à la pâte.
Oh, j'ai compris, mon père.
Mais désormais, vous serez servie, ma chère femme.
Je vous promets, mon cher époux, de montrer à nos gens et à tous la patience, l'indulgence et l'amitié dont vous faites preuve envers moi.
À la bonne heure. Mais vous êtes en retard, mes enfants. Vos invités arrivent et vous êtes encore en loque. Votre mariage eut lieu dans la plus stricte intimité. Que du moins vos noces soient éclatantes.
Thank you.
Cette histoire n'est pas un conte de fées. Elle fait partie des quelques sujets du répertoire universel qui peuvent s'adapter aux grands enfants. Vous avez apprécié, je pense, la suppression du conteur et l'interprétation de Jacqueline Joubert, de Bernard Desrents et de Tristan Sévère. Si la qualité des disques pour enfants est importante, celle des livres ne l'est pas moins. Car bien souvent, le disque est accompagné du livre, et en tout cas, le livre est à l'origine de la profusion du matériel sonore, distractif et éducatif que l'on peut trouver actuellement. Le bon livre pour enfants est une création relativement récente par rapport à l'industrialisation d'imprimerie. Et sa conception revient à un Français maintenant célèbre partout, le Père Castor. Les livres pour enfants sont très nombreux, de qualités diverses, et les albums du Père Castor édités par Flammarion restent une collection pilote. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir à nos côtés M. Paul Fauché, qui est le fondateur et le directeur des albums du Père Castor. À l'origine de votre expérience, qui remonte à 1932, vos préoccupations étaient éducatives, n'est-ce pas, M. Fauché?
Oui.
Alors qu'il n'existait rien dans ce domaine.
Oui, j'appartenais à ce mouvement de l'éducation nouvelle.
Oui.
Qui était un mouvement d'une ferveur extrême il y a 25 ans, ou peut-être un peu plus, et qui s'est étendu, qui s'est développé, qui a pris toutes sortes d'aspects, notamment dans les centres d'entraînement aux méthodes actives,
vous connaissez,
je crois, et dans bien d'autres manifestations.
Et vous avez eu l'idée de créer des livres pour enfants.
Oui. À un moment donné, il m'a semblé que toute l'action de propagande que j'avais tenté de mener par le Bureau français d'éducation, notamment, auprès des éducateurs, auprès des parents, n'était pas d'une efficacité suffisante et qu'il était préférable d'essayer de s'adresser directement aux enfants, de les toucher directement, même aux besoins à l'insu des parents, en leur donnant des publications qui soient adaptées déjà à ce moment-là à leurs besoins, ou du moins à ce qu'on imaginait ce que pouvaient être leurs besoins, bien sûr.
Parce que déjà, à l'époque, les illustrés étaient fort nombreux, et peut-être moins que maintenant, mais enfin, déjà, on sentait une espèce d'invasion détestable, et une réaction était nécessaire, enfin, je le pense. Quelle est, à votre avis, la définition de la bonne image, puisque nous parlons des illustrés?
Eh bien, n'est-ce pas, je crois que je vais peut-être d'abord donner une définition de la mauvaise, si vous voulez. Et peut-être dire avant, si vous le permettez, n'est-ce pas, que... Peut-être expliquer ou attirer l'attention simplement des mamans, des parents, sur l'influence extraordinaire de l'image, des premières images surtout mises entre les mains des enfants et des premiers textes que lisent les enfants. Ils se gravent dans la mémoire, dans la sensibilité des enfants et ils peuvent faire du bien ou du mal, ça il faut le savoir. L'enfant en conséquence... nous a toujours paru avoir droit, et je crois que tous mes collaborateurs ont partagé ce point de vue, droit absolument à plus de respect, à plus de conscience, à plus d'amour, dès l'instant qu'on travaille pour lui et qu'on se permet de dessiner ou d'écrire pour lui, et si possible à plus d'art que tout autre public.
Sans doute parce qu'il est plus influençable.
Évidemment. Et... notamment en ce qui concerne les images, n'est-ce pas, on pourrait distinguer, il faut d'abord parler des images mauvaises, qu'on pourrait appeler images choc, et qui provoquent chez l'enfant une émotion sans suite, qui n'aboutit à rien. Ou bien les images qui l'effraient, n'est-ce pas, et dont il conserve une sorte d'horreur et de répulsion pour un certain nombre de choses qu'il a justement vues dans ces images. Ou bien... encore les images qui déforment à l'excès les êtres humains ou les animaux, la caricature excessive dont le contour s'impose d'une façon trop violente. Et en général, toutes les images violentes qui véritablement interdisent l'enfant au lieu de le stimuler, ou bien qui l'excitent trop. Ou bien encore les images doucereuses, les images fades, celles qui ne lui apportent rien, qui sont vides, qui sont creuses. Et on pourrait appeler bonnes images celles qui, d'abord, font preuve de talent, d'art, qui ont des couleurs fraîches, qui sont vivantes, qui sont des images de la vie vraie, et que l'enfant peut, parce qu'elles sont à sa portée, dominer par la force morale, ou comparer à sa propre vie, et qui peuvent lui donner confiance en lui-même, qui peuvent l'aider à comprendre, qui éclairent les choses, et qui lui donnent un sens, évidemment, aussi de la gaieté et de la beauté.
Il faut rappeler qu'actuellement, la collection du Père Castor comprend près de 300 albums ou livres de lecture ou d'imagerie, que les pays étrangers ont imprimé leur version, et sous différentes formes, on sent l'influence que vous avez eue dans cette branche de l'édition. Cette influence s'étend même aux livres scolaires qui sont actuellement rafraîchis, présentés d'une manière attrayante. Et comment choisissez-vous les textes qui sont véritablement bien équilibrés avec les images ?
Eh bien, les textes, n'est-ce pas, dépendent, comme tout notre travail, dépendent d'un programme, sont généralement, presque toujours, le fruit d'une collaboration avec un ou quelquefois plusieurs auteurs. L'on cherche d'abord la sécurité affective et morale de l'enfant et l'activité de l'esprit. Une chose très importante, c'est que l'esprit de l'enfant soit en état d'activité et que les textes concourent à cette activité de l'esprit, ne le médusent pas, ou bien ne soient pas passifs ou descriptifs, et que tout soit basé, tous ces textes soient basés sur des intérêts et sur des besoins profonds. Qu'il y ait l'image de la vie vraie, sans mensonge, de la vie de la nature, de la vie des animaux, des problèmes de la vie des enfants eux-mêmes, les problèmes qui se posent et que les adultes ignorent généralement, très souvent, et qui se posent à eux. Il faut qu'ils trouvent des solutions à ces problèmes dans les textes qu'on lui donne autant que possible. Pas trop d'histoire de vie sociale déjà, pas trop d'histoire d'auto, de record, de Spoutnik pour les jeunes enfants, ça viendra assez tôt. Ils ont droit à leur temps d'enfance, n'est-ce pas, à leur poésie, à leur vie d'enfant de la terre, aux éléments de la nature. Encore une fois, tout ce qui leur permet de mesurer leur force réelle, ce qui n'exclut pas la poésie, au contraire, oui. C'est la poésie du réel qu'il faut chercher, mais de manière à ce que les enfants qui leur soient présentés, les héros, pas de Superman, mais ou les héros qui leur sont présentés, n'aient pas tout à portée de leur main sans effort, et que ce qu'il s'agisse d'enfants sans pays et sans origine, n'est-ce pas ? Des fantoches ou des figurines qui n'ont aucune consistance et qui n'apportent à l'enfant qu'une évasion dangereuse, et non pas une évasion véritable.
Ce sont des précisions importantes. Vous avez évidemment plusieurs catégories de livres pour les enfants de différents âges. D'ailleurs, il est souvent question d'albums dans vos collections.
Oui, oui, ce sont des albums surtout. Au début, voyez-vous, j'ai eu une grande tentation d'écrire, d'avoir des livres pour les enfants qui savent déjà bien lire. Mais si l'on veut rendre service, il faut prendre le problème plus tôt. Il faut s'occuper des enfants qui accèdent aux livres. Voilà ce qui est important. Et dans le choix des livres. C'est pourquoi le choix des parents qu'on ne peut pas guider en une conversation, n'est-ce pas, c'est pas possible, mais enfin, est tellement important, il faut qu'ils sachent qu'il est plus important de choisir et de passer du temps pour choisir un livre, une image pour les enfants, que de passer du temps pour choisir un chapeau, une robe ou une paire de chaussures. Parce que la paire de chaussures, mon Dieu, elle s'usera, elle en la quittera, tandis que un texte, une image en face desquelles l'enfant se trouve seul, va l'influencer d'une façon très prolongée, et c'est très important. Et un bon livre peut conduire et doit conduire l'enfant à la découverte personnelle, ce qui est très important, la joie personnelle, l'émotion personnelle de la lecture. Et c'est un début de nos albums.
Eh bien, pour conclure, je pense qu'il n'est pas superflu de redire l'importance de la préparation des enfants pour un progrès en matière d'éducation et de culture. Si vous voulez, je vais choisir la phrase de Rabelais. L'enfant n'est pas un vase qu'on emplit, mais un feu qu'on allume. Et vous avez voulu rêver d'albums étincelles. On peut dire que le Père Castor a bien choisi son nom de constructeur. Et je vous remercie encore, Monsieur Paul Fauché. le cinéma et l'enregistrement sonore ont pour les enfants aussi des intérêts communs. La sortie d'un nouveau film de Walt Disney a immédiatement des conséquences multiples. Exposition publicitaire dans un grand magasin, disques livres, etc. La Belle au bois dormant, dessin animé de long métrage, sera sur les écrans parisiens pendant les fêtes. D'après la version enregistrée qui nous est offerte déjà, nous aurons là une nouvelle surproduction égale à celle auquel nous sommes habitués. La Belle au bois dormant fait partie du répertoire international des contes, ce qui est une garantie d'amortissement pour un film cher. C'est ainsi que l'on fabrique un genre familial pour un public composite où la part de tendresse et de violence est savamment dosée.
On entendit soudain un fracas effroyable. Un éclair jaillit au centre de la grande salle du trône et devant l'assemblée consternée apparut la terrifiante Maléfice, la fée du mal.
Bien que je n'ai pas été conviée à ces réjouissances, je vais aussi faire un don à cet enfant. Écoutez, écoutez tous! La princesse grandira belle et gracieuse jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais le jour de son 16e anniversaire, avant le coucher du soleil, elle se percera le doigt au fuseau d'un rouet. Et sa vie s'arrêtera.
Mais on connaît la suite. Voici le passage enchanteur en couleur polychrome.
Quand le prince parvint à la clairière, il vit la scène la plus charmante que ses yeux aient jamais contemplée. Sa grande cape rouge, portée par les oiseaux, flottait au vent et enfermait la délicieuse églantine qui virevoltait avec elle.
Laissez cette cape, jolie jeune fille, et permettez-moi de vous faire danser. Je vous connais. Vous êtes telle que je vous vois en rêve chaque nuit.
Je vous connais aussi. J'ai déjà vu vos yeux dans le miroir de mes songes.
C'était vous après qui j'allais au bout du rêve. C'était vous que j'apercevais dans tous mes songes sans trêve. Je sais bien.
Mais dites-moi votre nom. Où habitez-vous?
Je m'appelle... Non. Non, non, je n'ai pas le droit. Adieu. Il faut que je m'en aille.
Attendez, attendez. Quand vous reverrai-je?
Jamais. Jamais. Mais ma reine me l'interdit.
Oh, je vous supplie de me revoir. Quand?
Eh bien, ce soir. Dans la chaumière du bûcheron, au cœur de la forêt.
Mais sous la croûte de caramel, il y a, craché par un monstre, du feu qui brûle les yeux des enfants.
Courage, mon fidèle compagnon. Allons d'une traite vers le château de la Belle au bois dormant.
Tu n'y atteindras pas, Philippe. Je dresserai des buissons de fer sur ta route.
Je les abattrai avec mon épée comme ceci. Et comme ceci,
je t'entourerai de cercles de flammes.
Je les franchirai. Saute, Samson. Encore. Un autre. Hop. Et un autre. Saute.
Puisque tu m'y obliges, prince intrépide, je vais quitter ma forme humaine. Et pour te barrer la route du château d'or la princesse, me voici devenu dragon immense, crachant feu et flamme. Tu me vins sous cet aspect,
Alors, s'en sera fini de moi.
Non, Samson! Non, ne recule pas. Allons droit sur ce monstre. Mon bouclier nous protège de ses flammes et je planterai mon épée jusqu'au fond de ses entrailles.
Réminiscence de Saint-Georges et du Dragon pour le suspense, de Blanche-Neige et les Sept Mains pour la romance. Michel Morgan, qui raconte très bien d'autres histoires, s'est fourvoyé dans celle-ci.
Il vous faut savoir que la princesse et le prince furent longtemps très heureux dans leur beau château rose et bleu et qu'ils eurent beaucoup, beaucoup de beaux petits-enfants.
Il y a les anges, figurant de la mise en scène traditionnelle, et puis il y a les enfants de tous les jours dans une histoire réaliste. Chouk et Gek sont les personnages d'un film soviétique qui eut un grand prix du cinéma pour la jeunesse. Muse Dalbré en a fait une adaptation sonore très intéressante, mais qui ne s'adresse pas non plus aux jeunes enfants. L'intensité de certains sentiments mis en cause les touche de trop près. Chouk et Gek et leur maman rejoignent papa qui dirige un chantier dans la steppe et ne peut pas venir à Moscou pour les fêtes de fin d'année. Dans le train, les deux petits diables échangent leurs découvertes.
Hey, Gag. Ben réveille-toi, Gag, il fait grand jour. Si tu dormais la nuit au lieu de regarder la lune, alors lève-toi.
Je trouve plus ma culotte.
Par terre, tu marches dessus. Dépêche-toi. Les voyageurs trouvent le temps long. Ils se réunissent pour chanter.
Pour chanter? Oh oui, oui, tout de suite, tout de suite.
Le carreau. Maintenant, elle est dans le couloir.
C'est vrai?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Peut-être que le train a tourné.
Tu crois qu'il a fait demi-tour?
On dirait.
Alors, on tourne à Moscou?
Peut-être le mécanicien s'est trompé.
Oui, je sais, endormi.
Il faut le réveiller. Maman!
Maman!
Le mécanicien s'est endormi.
La locomotive roule toute seule.
Elle s'est trompée de chemin.
On tourne à Moscou.
Voyons, mes enfants, mais qu'est-ce qui vous prend?
C'est la lune.
La lune!
Elle n'est plus du même côté qu'hier.
Et c'est pour ça que vous me réveillez. Allons du calme, dormez.
Alors, ce n'est pas grave que la lune soit pas du même côté?
Ah, mais non, Gek, ce n'est pas grave. Dors, je t'expliquerai demain.
Oh, bon. Tout de même, c'est drôle.
Chouk, Gek et leur maman arrivent au campement. Mais il est désert. Bientôt, un homme se présente.
La paix, allez. Qui est là?
Mais qui êtes-vous?
Et vous?
Je suis la femme de Sérigine, le chef du groupe de prospection. Et voici ses enfants. Je puis vous montrer mes papiers?
Aux papiers? Pourquoi faire? Il suffit de regarder ces têtes-là. C'est tout le portrait de leur père. Celui-ci, surtout, le gros.
Je suis pas gros. C'est moi qui ressemble à papa, plus que Chouk.
Non, c'est moi.
Et raisonneur, par-dessus le marché. Mais pourquoi êtes-vous venu? Puisque vous avez dit de ne pas venir.
De ne pas venir, comment ça?
Alors, c'est moi-même qui expédiais le télégramme où Sérigine vous disait... Retard de départ 2 semaines. Partons urgence dans Taïga. Puisqu'il vous écrivait d'attendre. Fallait attendre.
Un télégramme? Mais nous ne l'avons pas reçu.
Ouais.
Dites donc, les enfants, vous n'auriez pas reçu un télégramme en mon absence? Mais répondez-moi, petit monstre. Vous avez reçu un télégramme et vous ne me l'avez pas donné.
C'est pas moi, maman.
C'est pas ma faute. C'est Tchouk qui a cassé le manche à balai.
Il avait crevé mon beau carton.
Alors j'ai jeté sa boîte par la fenêtre.
On a cherché partout et on l'a pas retrouvé.
Mais le télégramme, maudit garnement, le télégramme.
Il était dans la boîte.
Oh, vous me ferez mourir.
Oh non, maman, on veut pas que tu meurs.
Allons, expliquez-vous, cessez de pleurnicher. Racontez-moi tout bien vite. Le facteur a apporté un télégramme.
Oui.
Où l'avez-vous mis?
Dans ma boîte.
Et la boîte?
Elle s'est envolée. Oui.
Oh, mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit? C'est vilain de mentir.
On t'a pas menti, maman.
Tu ne nous as rien demandé.
Et que voulez-vous faire de garnement pareil?
C'est bien simple. On prend un fouet. On les jette en prison. On les envoie au bagne.
Oh non, maman. On veut pas le fouet.
On veut pas aller au bagne.
Allons moucher votre nez et laissez Boris m'expliquer.
L'équipe a été envoyée d'urgence à la gorge d'Alcarac. Et ne reviendra pas avant une dizaine de jours.
Et comment allons-nous vivre pendant ces 10 jours?
Ah, arrangez-vous comme vous pourrez. Je vous donnerai du pain. Et tenez, voilà un lièvre que j'ai tué.
Mais vous?
Oh, vous occupez pas de moi. Demain à l'aube, je pars dans la taïga pour 2 jours. Je dois vérifier les pièges.
Cela tombe bien mal. Qu'allons-nous faire tout seul? Il y a la forêt, les bêtes...
Ah, je vous laisserai un fusil. Il y a du bois sous l'auvent. La source est derrière la butte. Dans le sac, là, du gruau. Du sel dans ce bocal. Comprenez, moi, je n'ai pas de temps à perdre avec vous.
Oh, il est méchant.
Et la soupe est dans le four, les cuillères et les écuelles sur l'étagère. Asseyez-vous et mangez. Bah, qu'est-ce que t'as à me regarder de travers, toi, le gros?
Où tu t'es déchiré comme ça?
Je me suis disputé avec un ours.
Oh, t'entends, Gek? Il s'est battu avec un ours. C'est peut-être pour ça qu'il est fâché.
Peut-être. Mais moi, j'aime pas ceux qui parlent dur à ma maman.
Après des émotions fortes, on craint à un certain moment que le plus petit garçon soit mangé par les loups. Tout finira bien. Le trappeur est un brave homme, malgré les apparences. Il a prévenu le père des enfants qui arrive et la joie éclate.
Alors, on va voir papa.
Oui, papa arrive dans 4 jours.
On va revoir papa.
On va revoir papa. On va revoir papa. On va revoir papa.
Je pense que vous êtes convaincu. Les cadeaux les meilleurs ne sont pas les plus enrubannés, et la perle est rare. Bien que les bons ouvrages fournissent une matière irremplaçable et des exemples d'interprétation, il faut souhaiter que l'existence de nombreux disques-livres ne prive pas les enfants de la présence des parents conteurs. Rien de tel que le contact véritable pour choisir et nuancer une histoire avec des sensibilités que l'on connaît bien. L'auditoire enfantin est infiniment respectable.
Enfants marchent à reculons pour voir la lune qui les suit. Flont un cheval d'un vieux bâton, une maison d'un parapluie. C'est la fée Carabosse qui leur donne ce pouvoir.
Pour cette émission ont été utilisés les œuvres et disques suivants. L'univers des enfants par les 3 Horaces, 45 tours Polydor, Babar et le Père Noël, 45 tours Festival, La Princesse Trop Fière, un grand 33 tours du Chant du Monde, La Belle au Bois Dormant, un grand 33 tours Vega. Tchouk et Gek, un disque 33 tours de la collection Enfance du Monde.
Les enfants ont des yeux et des oreilles. C'était une émission d'André Fontaine consacrée aux cadeaux de fin d'année, les livres-disques.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er décembre 1959. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
Thank you.